la fabrique.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
C'est parti.
Salut Lynn.
Salut Alessandra. Et bienvenue sur le podcast Crépidule, que nous sommes très heureuses de lancer aujourd'hui sur les ondes de la radio Fabrique.
Et nous allons venir tous les 15 jours porter nos voix féministes à vos chères oreilles.
Oui, et aujourd'hui nous vous proposons une interview-discussion avec l'artiste féministe Angela Marzullo, que nous avons rencontrée la semaine dernière dans le cadre de son exposition Feminist Energy Crisis, qui a eu lieu au Centre de la photographie à Genève, du 27 janvier au 12 mars 2017.
Oui, mais avant de passer cette interview, on pourrait peut-être commencer par nous présenter. Bon, alors déjà, pour se présenter, nous, dans notre relation, on s'est rencontrés il y a quoi, 4 ans ?
Ouais, je dirais.
Ouais, au cours d'un master, en études de genre à l'Université de Genève.
Oui, et assez vite, on s'est rejointes dans des réflexions sur les questions féministes et notamment comment faire passer ce que nous apprenions à l'Uni au-delà, en fait, de cette sphère académique qui peut parfois être très fermée.
Oui, je pense que c'était là, en fait, une première étape vers la production de ce podcast, une envie de développer des outils de réflexion qu'on pourrait partager en dehors de ce système académique, une sorte de mise en pratique de nos savoirs théoriques d'une manière plus militante. Et ce podcast, on l'a lancé il y a déjà 6 mois et nous sommes aujourd'hui à notre 13e épisode.
Oui. Donc moi, à l'époque, et toujours aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts et c'était vraiment un médium que j'avais envie d'explorer. Donc ça vient aussi un peu de là, donc à la fois du plaisir de discuter avec toi, Alessandra, et de l'envie de diffuser et de partager nos réflexions féministes. Après, c'est vrai aussi que le micro a quelque chose d'addictif, donc après qu'on ait enregistré et publié le premier épisode, il n'était plus question de s'arrêter. Ouais, et puis pour parler du format de nos podcasts que vous allez découvrir dans les semaines, mois et années peut-être à venir. Donc c'est des sortes de discussions que moi je dirais entre guillemets sur canapé, même si quand on enregistre, c'est plutôt, on est plutôt assise dans ton bureau, Alessandra.
Oui, et puis des discussions un peu spéciales parce que c'est pas juste nos opinions comme ça, qui n'intéresseraient peut-être pas grand monde, mais c'est des discussions qu'on nourrit en fait par des recherches qu'on fait chacune de notre côté. Et puis d'ailleurs, on aime bien amener une perspective historique dans nos réflexions, parce que ça permet de prendre du recul, puis de voir comment des thématiques sont nées, comment elles ont évolué, ce qui est d'ailleurs un grand outil de la recherche féministe, de justement, c'est un, allez, on sort un vilain gros mot, d'historiciser les événements.
Oui, et si le fil rouge de nos podcasts, c'est justement nos perspectives féministes, nous abordons vraiment un peu tout, en fait, sous cet angle. Pour dire comme ça un peu des exemples, ça va de la littérature aux algorithmes, à la contraception alternative. On dire aussi qu'on reçoit parfois des invités qui viennent nous parler de sujets en particulier.
Oui, parce que c'est une dimension qui est aussi importante de notre podcast, c'est de créer en fait une plateforme où voilà, différentes voix puissent s'exprimer, différents sujets. Donc c'est aussi pour nous, vous verrez, ponctuellement, on a des gens qui partageront le micro avec nous.
Oui, et moi je trouve que c'est aussi très enrichissant de faire ces podcasts avec toi, Alessandra, parce que je trouve, voilà, nous avons comme ça des centres d'intérêt assez différents. Et moi, en tout cas, je découvre toujours beaucoup de choses à travers nos discussions.
Tout pareil. Et puis, bah, voilà aussi, si on a un socle commun, on n'a aussi pas le même âge, on n'a pas la même situation professionnelle ni familiale. Alors, ça fait un super cocktail. Mais justement, on a choisi dans ce podcast number one à la fabrique de vous passer cette interview avec Marzullo parce que justement, elle aborde de façon très, très concrète ce que c'est d'être une artiste féministe.
Oui, et si elle est active à Genève, elle est aussi connue à l'international. Elle explore plusieurs médiums, la performance, la photo, la vidéo, l'installation, entre autres. Et son art est à la fois drôle, provocante et résolument politique. Et dans cette interview qu'on va vous passer maintenant, elle nous parle de son engagement et aussi de sa carrière dans le milieu artistique. Et elle montre, ce que je trouve vraiment très intéressant, comment son féminisme a nourri son art et vice-versa.
Juste préciser encore qu'on a enregistré au Centre de la photographie à Genève, donc un son un peu différent. Mais allez, allez, on lui passe notre micro poilu.
On est déjà prêt, parti. Ouais, c'est vrai. C'est parti.
Alors oui, bonjour.
Bonjour Angela Marzullo. Voilà. Merci de nous accorder une interview à la suite de la table ronde qui a suivi votre exposition Feminist Energy Crisis.
Oui.
Il y a aussi Alessandra qui est là.
Elle est là.
Bah, ouais.
Peut-être on peut juste commencer par parler du titre, donc Feminist Energy Crisis. Tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, alors effectivement, j'avais fait une première image qu'on voit dans l'exposition. C'est effectivement le tas de moules sur la moule qui a inspiré le titre de l'exposition. Après, elle n'est pas venue, disons, l'image de représentation de l'exposition, mais c'est là effectivement où ce titre est né, dans l'idée effectivement sur les énergies, disons, voilà, les énergies pures, non, pardon, pas pures, genre le pétrole, voilà, les sources,
matières premières,
les énergies pures, voilà, sur l'exploitation des matières premières. Et je me suis dit, voilà, avec ça, peut-être, voilà, ça donnait un peu cette idée, voilà, qu'il y a une espèce d'exploitation massive sur les matières premières, mais qu'on peut aussi lire, effectivement, sur l'oppression générale de tout qui est féminin, si on part de l'idée que la mère, terre, elle est féminine. Mm. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, ça, c'est né, pour expliquer un peu ce titre. Après, évidemment, c'est aussi devenu quelque chose de plus politique, moins littéraire, dans le sens, effectivement, manque. Est-ce qu'il y a encore une espèce de mouvement féministe? Est-ce qu'il est encore vivant? C'était aussi avec ces questions-là que je me suis dit, OK, voilà, il faut absolument mettre dans le titre, voilà, il faut faire ça, mettre ça très au clair de quoi on parle dans cette exposition. Pas se cacher et puis pas avoir un discours trop compliqué, mais avoir un titre un peu accrocheur, dans le sens, oui. On peut peut-être aussi dire, voilà, peut-être il est un peu comme ça, un peu hurleur comme titre, mais c'était important pour que les femmes ou le public soient vraiment appelés, quoi, à la question.
Voilà. Ouais. Mais justement, parce que le féminisme, c'est quelque chose qui, c'est un fil rouge dans ton travail, dans tes œuvres artistiques. Et est-ce que tu as l'impression, parce que voilà, là, tu dis, tu l'as mis le nom, le mot féminisme dans le titre de l'exposition. Est-ce que c'est quelque chose qui était plus difficile à faire avant?
Oui, ça, oui, effectivement, moi, j'étais très contente de travailler dans le centre de la photo parce qu'en fait, le cadre était très ouvert et accueillant, qu'on ne s'attend pas toujours des institutions, que par exemple, si je travaillais, disons, avec des curateurs, ça peut être vite plus compliqué. Oui. Et par contre, là, j'avais comme une carte blanche dans le sens aussi de comment je voulais me positionner, quel genre de travaux au fil rouge je voudrais avoir à l'intérieur de l'exposition. Oui, je pense que c'est très compliqué de dire dans l'art féministe. Mm-hmm. Mais pas pour moi, mais pour que les autres, ils entendent.
Parce que toi, tu revendiques cette posture féministe depuis le début de ton cheminement artistique?
Oui, disons, le féminisme m'a un peu sauvée, comme, je sais pas si comme c'est pour des autres femmes. Non, disons, j'étais déjà féministe avant de devenir artiste. Vraiment, j'étais déjà politisée. Et après, dans le cursus, dans mon cursus artistique et puis effectivement mon éducation institutionnelle, là, c'était très compliqué d'affirmer effectivement une position, disons, politisée du féminisme, surtout dans ces années-là, disons, 20 ans en arrière. C'était pas du tout le trend. Oui, ça commence un petit peu, mais c'était des micro-groupes un peu plus extrémistes qui entraient peut-être même pas dans l'école. Alors, les discours queer ou gender, ça n'existait absolument pas. C'était vraiment un discours des minorités qui l'ont déjà, voilà, moi je le connaissais parce que voilà, je fréquentais ces minorités, mais c'était pas quelque chose qui avait un discours officiel. Et le féminisme avait vraiment très mauvaise presse à ce moment-là. Il n'y avait pas encore ce renouvellement discursif aussi, qui aujourd'hui, heureusement, il est là, et puis porte aussi nouveau, disons, mon propos, mais à ce moment-là, c'est une espèce de trou noir du féminisme.
Mais donc, quelles ont été tes stratégies à toi pour... c'est une dimension que tu as mis un peu en minus, en sourdine, où tu as, tu vois?
Oui, alors effectivement, quand je suis arrivée à l'école, ici à Genève, ils nous ont enseigné l'art conceptuel et the language. Voilà, peut-être il y avait encore des choses qui pourraient fonctionner là-entour, mais c'était vraiment l'idée de créer encore un peu l'art poétique, d'une certaine manière. Et moi, ça ne m'a pas dérangée, parce que c'était aussi bien pour apprendre un peu les outils. Et voilà, ça m'a permis aussi de déjà peut-être un petit peu défocaliser et voilà, apprendre les outils, disons aussi techniques que je voulais investir, comme la vidéo et la photo. Et en même temps, effectivement, j'avais déjà, j'étais enceinte, j'avais les deux grossesses pendant mon parcours scolaire. Mmh. Et ça, c'était pas super bien accueilli. Parce que voilà, comme un peu l'idée, c'est que soit t'es... Je veux dire, déjà, si qu'on femme, il choisit dans une institution, tu vois, je veux dire, c'est déjà genre la top chance. Et en même temps, si après, tu mets ça nouveau en danger, disons, avec ta carrière possible, avec, disons, deux grossesses, ça veut dire que tu n'es absolument pas disponible pour travail artistique. Disons, ça, c'était vraiment un peu l'atmosphère que moi, j'ai vue à l'époque. Et par contre... Moi, je ne voulais pas que ça se tourne contre moi, parce que c'était des choix, des pro-choice. Après, on peut discuter, on peut faire différemment. Mais pour moi, c'était important de faire comme ça. Et en fait, alors, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une manière de travailler, que ça, ce n'est pas négatif ou, comment dire, ça ne devient pas une situation toxique. Et là, j'ai vraiment nouveau pris recours, effectivement, aux outils qui ont mis en place des autres femmes, quoi. Et en fait, voilà, moi, je pense que je viens vraiment un peu d'une perspective du fight back.
Oui, justement, décris-nous un peu ces outils, parce que je pense que c'est...
Oui, ben justement, en fait, à la suite de la table ronde, Alessandra et moi, on a discuté un peu dehors, et parce qu'il y avait eu des propos aussi par rapport aux intervenantes où on n'était pas forcément d'accord, et à quel point ça peut être difficile de négocier ton féminisme avec les autres féminismes ou aussi même avec les autres postures politiques que ça... Enfin, par exemple, personnellement, ça me coûte parfois physiquement. Et c'est vrai que c'est vraiment important aussi de pouvoir exprimer ce que toi, tu ressens.
Oui, alors maintenant, effectivement, j'ai aussi eu la première fois, hein, je veux dire, dans ma vie artistique, la possibilité de mettre, vraiment prendre la place et puis aussi donner la place à différentes entrées. Franchement, ça m'a pas coûté, mais c'était aussi un apprentissage de faire avec les autres. Parce qu'évidemment, on part un peu de sa propre autoroute et puis c'est important de la tenir. Mais en même temps, effectivement, il y a des autres approches, il y a des croisements. Et effectivement, pour moi, c'était important qu'ici, maintenant, où on a comme un peu conquéri un espace, qu'il y a aussi cette ouverture de ces croisements. Et c'est vrai, ça coûte un peu au début. Ouais. Non, c'est un peu la patience. En fait, c'est quelque chose qu'avant, je ne savais pas du tout. Mais là, il y avait une situation aussi de ma propre patience qui s'est mise en place vis-à-vis d'écouter des autres. Quoi.
Donc, un outil, c'est la patience ?
Oui, voilà, le nouveau outil, c'est la patience.
Parce que je te pose cette question parce qu'il y a cette... Si c'est un des outils que tu as utilisé, mais il y a cette dimension qui a été juste un peu évoquée dans cette table ronde, de partir de l'expérience, en fait, d'éclairer sa propre expérience et de l'utiliser comme un terreau pour construire sa propre démarche, sa propre science. Comment tu te situes par rapport à cette notion ? De l'expérience.
Non, alors l'expérience, moi je pense effectivement, moi, mais en même temps pour moi c'était tellement présent toutes ces choses, c'était vraiment l'urgence, c'était pas dans le sens d'une expérience où je dis oui j'ai fait ça et ça, j'étais vraiment dans l'urgence, alors, mais dans l'urgence de réagir, et dans l'urgence de créer une espèce de bulle d'air quoi, à l'intérieur disons aussi de ce système artistique et autres quoi. Et c'était de là, voilà, je viens vraiment plus de l'urgence pour passer à l'action que l'envie de faire une expérience. Mmh. Voilà.
Alors moi, c'était plus dans le sens, comme tu as beaucoup travaillé avec tes filles, c'est, tu vois, plutôt qu'on te reproche ces dimensions de maternité, comme si tu les avais transformées pour en faire une force qui part de ta propre expérience.
Oui, alors effectivement, ce travail avec les filles, comme aussi ce travail ici, c'était très très long, vraiment pendant des longues périodes très très critiquées, mais sur des dimensions, on sort, disons, du cadre critique normal vis-à-vis un travail, mais effectivement, comme c'est aussi du privé, effectivement, tu as aussi, voilà, tu encaisses aussi des critiques qui touchent à ta, comment dire, au privé dans ce sens-là, quoi. Puis par exemple, le film des enfants, au début, c'était voilà, que j'étais dans une situation d'exploitation de mes filles. Non, mais j'en ai vraiment entendu de tout. Et où ça, c'est pas la médiation, parce que maintenant, voilà, il y a aussi des outils de médiation, et qu'on fait, on peut pas faire des choses hors cadre. Voilà, j'étais vraiment très, très longtemps confrontée à ça. Mais en même temps, ce travail, maintenant, après coup, effectivement, c'est quelque chose où j'ai travaillé dessus pendant 10 ans. Le corps de l'œuvre, il est devenu tellement important qu'il peut plus être réduit avec des argumentations, disons, presque un peu malveillantes, quoi, dans ce sens-là, quoi. Ou un peu de mauvaise foi, je dirais pas malveillant, mauvaise foi. Et ça, par contre, moi, je savais pas, quand j'ai commencé à faire ces films, je pensais pas que ça va durer 10 ans. Mais effectivement, en fait, aussi avec ça, j'ai appris, effectivement, en fait, le travail doit aussi grandir. Si on a un propos, disons, un peu plus radicalisé ou hors case, c'est lui-même qui doit après tenir et défendre ça que moi j'ai mis dedans.
Voilà, ça. Et dans ton œuvre, la question en fait, de la transmission de l'engagement féministe est très présente. Et Maud Polienne, par exemple, qui a rédigé donc, la fiche explicative qui accompagne ton expo, elle définit ton exposition comme étant un acte de passation. Et donc, on vient de parler de tes travaux avec tes filles, où cette idée de faire passer est très présente. Ouais, comment, en fait, en tant que personne et en tant qu'artiste, est-ce que tu travailles à cette transmission politique féministe ?
Ouais, en même temps, c'est aussi quelque chose où j'étais aussi sujet, quoi. J'étais aussi portée par des autres femmes. Je veux dire, maintenant, voilà, c'est la première fois que c'est, disons, un couple d'hommes qui monte ce travail, et puis on a aussi la possibilité d'accéder à ces grands espaces. Mais pendant des longues années, c'était des femmes qui portaient vraiment, disons, le discours et aussi la visibilité de mon travail. Et dans ce sens-là, voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose, pas naturel, mais quelque chose qui coule dans le mouvement, qui continue à fonctionner dans cette manière-là, un peu plus intuitif. Hein, voilà, on travaille un peu dans des autres espaces, mais cette énergie-là reste. Et puis moi, j'en ai aussi beaucoup de profité. J'étais aussi portée par des autres femmes, dans des moments où moi, j'avais besoin.
Et c'est quelque chose que tu arrives à offrir aux générations qui suivent.
Ouais, j'espère. En même temps, c'est aussi bizarre parce que oui, là, moi, évidemment, moi, j'ai 45 ans. Alors voilà, c'est un autre moment de vie qui, disons, commence. Mes enfants, ils sont grands, tout ça. Mais en même temps, tu veux pas non plus être tout de suite mis dans la, tu vois, un peu dans la case des grands-mères qui ont des choses à dire qu'on aime bien écouter. Et en même temps, il y a une distance. Effectivement, il y a un temps qui s'est écoulé, voilà, dans ma praxis. Bien sûr, non. Je pense que c'est important qu'on puisse rester fluide avec ses propos, quoi.
Après, on discutait aussi de ça avec Alessandra avant l'interview. Il y a aussi une importance dans le féminisme de produire des archives, d'enregistrer les actions qui sont faites. Et je pense que le fait, en fait, de toi, en tant qu'artiste féministe, t'insérer dans une institution, et ben, ça permet aussi vraiment d'ancrer ton œuvre dans l'histoire, en fait.
Oui, disons, c'est ça qui était toujours refuté pendant longtemps à beaucoup de femmes. Je veux dire, c'est ça aussi qu'on nous dise toujours, oui, les femmes, ils n'étaient pas là. Mais en fait, il y avait toujours des femmes. Il n'y avait pas l'accès aux musées, aux institutions et aux archives, à l'histoire. Je veux dire, là, on est dans un mensonge général. Mais en tout cas, les femmes, ils étaient tout le temps là. Et c'est aussi ça que je voulais un peu prouver ici, dans le sens où je me dis, OK, si on ouvre les portes de l'institution, voilà, il y a toute la communauté. Elle vient, elle est prête. C'est des femmes de tous les niveaux. Ils sont très, très, comment dire, c'est des spécialistes de leur propre cause, quoi. Mais ça, pour ça, il faut un peu changer, mais pas beaucoup, hein. Voilà, il faut mettre un titre. Voilà, il faut mettre les cartes voilà, sur la table. Et là, on change vraiment, hein. Je veux dire, là, on a eu sûrement 95% les femmes qui sont venues, quoi. Tu vois, on change aussi les statistiques. On peut changer, c'est pas compliqué, mais il faut ouvrir les portes.
Et moi, justement, j'avais une question par rapport à ça. Donc là, tu parles du public. Est-ce que tu cibles un public en particulier ? Est-ce que tu aimerais les sensibiliser ou est-ce que tu aimerais carrément créer un public nouveau ?
Oui, alors moi, je pense là, c'était pour ça, après les performances, je suis aussi un peu retournée sur le public, parce que c'est en fait souvent des femmes que je ne connaissais pas forcément, parce que j'étais étonnée, effectivement, que ça sort déjà de mes connaissances, parce que je pensais, voilà, on est à Genève, il y aurait sûrement des gens qui, voilà, qui connaissent mon travail, tout ça. Et là, j'étais vraiment confrontée à des femmes qui sont venues, souvent, effectivement, des moments avec leurs filles, voilà, un peu des biomes comme ça, qui sont déplacés en voiture, voilà, pour être là à 11h. Et voilà, ce n'était pas des femmes où moi j'ai ciblé, mais j'étais hyper contente qu'ils ont fait l'effort de venir. Et effectivement, après, il y a dans l'art aussi toujours un peu ces problèmes entre une espèce d'élitisme intellectuel et puis le mouvement, disons, de base, ou des femmes qui peuvent aussi être dans l'idée d'un coming out, une reconstruction dans une autre phase d'absence, où ils étaient peut-être absents du mouvement ou plus du tout liés à quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est aussi important de garder ouvert tout le temps, les entrées pour ces, voilà, aussi des nouvelles coming out féministes travers tous les âges et les couches. Pour moi, ça reste important. Et puis, par contre, le travail intellectuel, il n'est pas dénigré, mais ça se joue pas seulement vers ça, quoi. Ça, c'est, pour moi, c'est important.
Et tu fais pas mal de performances et tu as une alter... on dit un alter ego, mais j'aimerais dire une alter ego ici, qui s'appelle Makita. Et donc, est-ce que tu peux un peu parler de ce choix de l'alter ego?
Oui, alors effectivement, comme je suis arrivée à Genève et puis c'était la mode, disons, de l'art conceptuel, alors pour moi, c'était, j'avais pris très très longtemps pour comprendre, mais c'est quoi cet art conceptuel? Ça m'a pris vraiment longtemps. Puis tout d'un coup, j'ai compris, ah voilà, ça pourrait être un concept, ce nom de Makita. Et disons, ça, c'était né un peu quasi avant mes travaux artistiques. Mais en même temps, c'était important pour moi parce que ça m'a porté tout du long, quoi. Et Makita, c'est la machine pour... voilà, c'est une perceuse. Voilà, c'était aussi un peu cette idée-là, créer ses propres outils, voilà, une perceuse, un fétichisme que normalement, c'est les hommes qui utilisent, mais on perce quand même les trous, voilà. On est un peu dans toute cette fantaisie-là. Et ça reste quand même un nom féminin, attirant, disons, japonisant, voilà, il y a tout qui va avec.
Moi, mon œuvre préférée de l'exposition, c'est donc l'enregistrement vidéo de cette performance avec l'araignée. Pardon, j'ai oublié le titre.
Voilà. Elle s'appelle Bodybuilding.
Donc, peut-être juste pour expliquer. Tu arrives à expliquer, toi, Alessandra?
Alors, Makita se met en scène accroupie, nue, avec filmé un plan qui s'arrête sous les bras, qui ne montre pas les bras ni le haut du corps. Et en fait, tu as un jouet qui est composé d'une longue tige qui amène à une sorte de petite bête poilue en plastique. Et en fait, par la force de ton vagin, tu vas insuffler de l'air dans cette bestiole qui saute.
Voilà. Ouais. Et moi, je trouve vraiment cette œuvre excellente. Je l'avais vue il y a quelques années, quand tu étais venue donner une performance à l'université. Et j'ai trouvé, c'est génial parce que ça, il permet vraiment de visualiser en fait la force du vagin, la puissance des muscles. Et dans un discours en fait hétérosexiste, le vagin il est souvent représenté comme un réceptacle passif, comme un vide, un trou. Et là c'est ça devient vraiment une partie du corps comme ça agissant et actif.
Oui, alors effectivement, c'est la proposition, c'est pour faire un training du périnée. Vous voyez, le périnée, c'est quand même un problème pour les femmes, souvent après les accouchements, mais pas seulement. Et en fait, disons, les gynécos, normalement, ils proposent une rééducation avec des petites pénis, ou voilà, un peu des choses, des tiges en bois. Et moi, ça me semblait vraiment, vraiment, j'ai refusé, hein. Mais en même temps, voilà, il faut quand même faire quelque chose. Et je me suis dit, oui, peut-être on pourrait faire ça dans une manière un peu plus comme ça, comme du training, un peu plus dans le sens aérobique à la maison, voilà, un peu self-help. Et en même temps, libération de la jouissance. Parce qu'en fait, ces muscles-là, ils servent vraiment à la jouissance. Pour la rééducation aussi de la jouissance.
Ils devraient même être éduqués à la jouissance.
Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, c'est pour ça, c'est bodybuilding, dans le sens aussi un truc un peu mauvais genre que les gens ils font, voilà, pour un peu augmenter leur potentiel.
Il y avait une jeune fille, elle devait avoir une dizaine d'années, qui était là en début de la table ronde, et sa mère lui montrait ça, et elle était choquée. Arrête de me parler de ça, maman.
Non, c'est clair, c'est pour ça. Effectivement, on a mis à l'entrée, voilà, cette exposition parle de sexe, mais vraiment aussi à la hauteur des enfants. Hein, c'est vraiment eux qui doivent lire ça. Aussi dans l'idée, on peut dire oui ou non à cette exposition à l'entrée. Et puis effectivement, je pense qu'il y a, voilà. Ça peut passer ou pas, mais l'idée c'était aussi ne pas castrer derrière après toute la production juste parce qu'il y a un public sensible dans ce sens-là.
Mais il y a un peu de grabuge derrière, mais c'est pas grave. Ça s'entend très bien au micro, on nous entend bien. Mais moi justement ça m'a fait très rire parce que moi j'avais un jouet comme ça gamine et de voir ça dans ce contexte là c'est vrai, ça m'a...
T'avais pas pensé l'utiliser comme ça?
Non.
Oh, c'est clair, c'est une proposition très très transgressif.
Mais jouissif aussi.
Oui, jouissif, mais aussi effectivement quelque chose où tu dis waouh, ok, peut-être. Mais en même temps, on est aussi dans le double araignée symbolique, comment dire, le sexe poilu. Après aussi avec l'araignée poilue, voilà, on est aussi dans une idée d'hystérie. Mm-hmm. Parce que derrière, il y a la musique de la Taranta, qui est vraiment la musique libération des femmes traditionnalistes italiennes. Mais c'est une musique du délire, hein, voilà, où tu entres vraiment en transe, quoi. Effectivement, ça accompagne toute cette chose de la montée de la jouissance.
Et je trouve très puissant cette figuration coupée dans le corps à ce niveau-là. Ça repropose une autre architecture corporelle qui est très intéressante.
Ouais, on entre vraiment dans une animalité du corps. Ça, c'était pour moi aussi voulu, quoi, effectivement. Oui, on coupe la tête pour être plus meilleure bête, quoi, de sexe.
Dernière question. Petite, elle s'annonce grande. Pendant la table ronde, tu parlais de ton exposition comme aussi une manière de sonner la cloche, de rassembler les féministes, les femmes, le public. Et moi, j'ai un peu une question par rapport à cette idée de réunification ou de juste d'unification des féminismes et des féministes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et est-ce que... Enfin, comment est-ce qu'on rend les féminismes plus accessibles sans gommer ces nuances et la complexité des enjeux qui lui donnent aussi sa force?
Oui, alors moi, je pense que ça manque vraiment crucialement des lieux de réunion. Je veux dire, tu vois, soit dans des milieux différents, qu'on parle un peu sur les mêmes questions, mais un lieu de réunion, ça manque vraiment crucialement. Et évidemment, là, il y avait un peu une atmosphère comme être dans une petite chapelle. Hein. Il y avait, tu vois, en même temps, c'était classique. Il y avait les trois femmes devant et puis les publics. Mais il y avait aussi, moi, j'ai vu le corps du public comme ça. Il y avait beaucoup de femmes et tout le monde était assez serré. Et je pense que c'est ça que j'ai vraiment souhaité. C'est pour ça, après, je suis très contente que ça ait eu lieu, quoi. Que, effectivement, les femmes, ils viennent, quoi. Et puis, il y a un espace qui se réouvre. Et puis, je pense que c'est ça qu'il faudrait. Et c'est aussi ça que l'art, ils doivent absolument proposer. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, un musée à soi, maintenant.
Mais justement, dans Sonner la cloche, tu parles tu fais un appel à la radicalité. Qu'est-ce qui s'est perdu? Qu'est-ce que c'est pour toi, cette radicalité que tu appelles?
Oui, alors moi, je pense, effectivement, avec cette exposition, on a comme un peu rebaptisé, comment dire, on a fait une réunification et par des femmes aussi qui peut-être ne veulent pas se projeter au-delà, mais au moins, il avait de nouveau une possibilité de participer ou être réintégré dans un mouvement de pensée. Et moi, je pense, maintenant, ça va... En tout cas, pour moi, c'est clair, il faut aller au-delà du féminisme, il faut devenir radical. Mais la radicalité, c'est encore un autre souci. Et ça va être nouveau le même boulot.
Qu'est-ce que tu entends par aller au-delà? Parce que tu penses que la radicalité ne peut pas être contenue dans une posture féministe?
Je pense qu'au moment, la radicalité, elle est très peu demandée. Je veux dire, déjà, si le féminisme en soi, il est accepté, ça semble déjà beaucoup. Mais je veux dire, le féminisme, il est historique. Et la radicalité aussi, mais je pense qu'elle fait peut-être partie plus de la contemporanéité.
Tu aurais un nom pour cette radicalité?
Merde. Bah ouais, je peux le dire, révolta femminile, si vous voulez. Ouais. Je dis, voilà. C'est là où ça va continuer la pensée aussi.
Yay.
Merci beaucoup, Angela. C'est parfait.
Okay. Merci beaucoup. On reprend l'interview parce que on a pas terminé de discuter de féminisme.
Oui, on évoquait le fait de cette place actuelle du féminisme avec cette dimension qu'on a déjà évoquée dans nos podcasts de pop culture qui a repris un peu ses codes. Et toi, Angela, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, parce que moi, je trouve que c'est plutôt positif que négatif. Ça, à l'intérieur du mouvement, c'est un peu... Il y a une espèce de peur de perte des valeurs, disons, vraiment réflectives. Mais en même temps, ça ouvre, même seulement au niveau symbolique, un public qui est... être après être, disons, éduqué vers un truc plus concret, mais ça permet vraiment une entrée. Et il y a une pièce, non, c'est pour ça que j'ai rebondi là-dessus, il y a vraiment une pièce qui aussi dans l'expo qui questionne ça, c'est la pièce où en fait j'ouvre le manteau et à l'intérieur, tu sais, il y a tous les badges d'Angela Davis.
Ouais,
alors là, on est vraiment dans une marchandisation, disons, d'une image et aussi du féminisme dans ce sens-là, mais en même temps, cette campagne des badges a permis quand même la libération d'Angela Davis. Alors tu vois, on peut aussi discuter. Alors si tout le monde peut mettre 5 francs, voilà, tu peux aussi faire une grande somme, même si c'est mainstream. Alors voilà, c'est pour ça, moi je pense là c'est intéressant de pas fermer les portes juste parce que les, voilà, peut-être ils portent des paillettes ou je sais pas quoi. Mais voilà, aussi ouais, voir.
C'est cool les paillettes.
Mais oui, mais aussi regarder dans l'ensemble, tu vois, qu'est-ce que ça amène à l'intérieur, quoi.
Oui, puis moi je pense quelque part, est-ce que c'est vraiment intéressant de discuter de ça, c'est vraiment féministe, ça, ça ne l'est pas. Je pense justement, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir à la diversité des points de vue et de travailler à un mouvement ou à des mouvements qui se remettent constamment en question et qui acceptent voilà, une diversité des paroles.
Oui, moi, je pense que c'est important parce qu'en fait, si une femme se dit féministe, on ne peut pas la mettre en cause. Je veux dire, ça ne va pas. Tu ne peux pas dire non, tu n'es pas féministe parce que tu n'as peut-être pas ça et ça. Et je veux dire, c'est là, disons, moi, je n'aime pas du tout parler du respect, mais une écoute, quoi, voilà, là, on est vraiment dans l'écoute. Et effectivement, voilà, si quelqu'un dit « je suis féministe », il faut l'accepter, dans son être, quoi, je ne sais pas, dans son intégralité.
Et au contraire, je pense que c'est une grande stimulation, parce que, pour moi, c'est tout ce qu'on a souhaité, c'est qu'il y ait débat, c'est qu'on montre justement que c'est pas un dogme, mais qu'il y a mille manières de l'incarner, de le vivre, et c'est tout ça qui enrichit la réflexion. Je trouve très très stimulant.
Oui, et puis voilà, on n'a pas beaucoup parlé des femmes, mais effectivement c'est aussi quelque chose qu'on a soulevé, parce qu'il y a aussi des féminismes qui sont différents, teintés par rapport à la culture où les femmes y viennent et sortent. Et puis ça, il faut pas non plus, tu vois, faire semblant qu'on est tous, disons, dans le même, dans la même énergie et au même endroit sur cette terre. Je veux dire. Les causes, ils sont très différents de l'oppression aussi.
Ouais. Mmh. Ouais, je pense les causes de l'oppression et aussi les outils qu'on choisit pour lutter et pas dire vous pouvez que lutter ou nous pouvons que lutter d'une certaine manière, mais d'accepter aussi le fait que, enfin d'accepter juste de reconnaître le fait que c'est nécessaire d'avoir une multitude d'outils dans les différentes boîtes.
Après, par exemple, j'étais aussi à la manifestation, tu sais, des femmes américaines. Et puis évidemment, tout le monde avait ses chapeaux sur la tête. Et puis moi, je me sentais aussi comme une ovni. Je me disais, non, mais attends, on va pas recommencer à tricoter nos propres chapeaux pour dire qu'on est bonne et rose. Puis aussi féministe et rose, voilà. Alors effectivement, on peut aussi marcher avec ça et puis garder son propre chapeau sur la tête. Voilà.
Ça, c'était une belle image, bel fond. On coupe le micro pour de bon.
La Fabrique.
Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Crépidule sur les ondes de La Fabrique. Donc nous remercions vivement Angela Marzullo d'avoir pris le temps de faire cette interview. Nous revenons dans 2 semaines et d'ici là, vous pouvez écouter nos anciens épisodes sur notre site crépidule au pluriel.com. Juste dire que pour La Fabrique, on fait un format, vu que ça passe à la radio, un peu... c'est un certain nombre de minutes qu'on doit respecter. Et en fait, sur notre site, les podcasts sont plus ou moins pareils, mais vu qu'on peut varier plus sur le temps, si vous écoutez donc le 13e épisode, qui est celui-ci, mais en format podcast sur notre site, il y a aussi une interview de Natacha.
Oui, qu'on a rencontrée également le week-end passé, qui en fait coordonne un événement art et féminisme à propos de Wikipédia, pour essayer de renverser le déséquilibre qui semble exister dans cette encyclopédie numérique, dans les écritures qui sont plus masculines et les visibilisations de personnages plus masculins. Donc l'idée, c'était d'inverser tout ça. Et voilà, si vous vous rendez sur notre site, elle vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi.
Oui, et aussi pour dire que sur notre site, vous trouverez le lien vers... ce qu'on a appelé le post-pod, qui est en fait une page qui déroule des liens, des références, des vidéos, qui permet d'aborder plus en profondeur les thématiques du podcast.
Alors, on vous souhaite une joyeuse quinzaine.
Yes. Tchuss.
Tchuss.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
La Fabrique.